écoutez France Culture.
Voyons voir un peu les dernières nouvelles. Valet de chambre, 42 ans, 1200 francs par mois. Il va un petit peu fort.
It's for you, Mr. Stevens.
How do you do?
My lord.
Very good man here, your son. He does the house great service. I don't know what we'd do without him.
Certainly, monsieur. Merci, monsieur le comte.
Jean de Maison.
Bonne cuisinière, 35 ans, ne pouvant pas quitter Paris. Écrire AB 11 bis rue Marbeau. C'est Augustine, ça, ça y est. Elle s'en va encore d'où qu'elle vient d'entrer. Elle peut rester nulle part, celle-là.
Bon appétit, monsieur.
Notre nouvelle bonne.
Bonne à tout faire.
Une émission de Marion Thibat, réalisée par Christine Robert.
Moi, je vais vous dire, je suis capable de faire un travail de 4 personnes. Dans une maison, je suis capable de faire un travail de 4 personnes et 5 personnes s'en rendent compte.
Oh, Stevens, what are we at dinner tonight?
Oh, Stevens, combien sommes-nous à dîner?
14, 16, 16,
12, 12, monsieur. Parfait. Merci. Merci, monsieur le comte.
Aujourd'hui, l'art du métier de majordome.
Le travail que j'ai fait, que je fais encore, je suis persuadé qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait été capable de le faire. Parce que prévoir qu'il faut envoyer une voiture pour M. Georges, il faut prévoir qu'il faut envoyer une voiture pour Madame, prévoir que Madame veut un coiffeur demain matin à 10h, prévoir que demain matin à 7h, il y a telle personne qui veut un petit déjeuner parce qu'il doit partir, il doit prendre un avion... Ouais, c'est toute une organisation, c'est tout un enchaînement de choses comme ça qui est extraordinaire.
I wonder if you realize what it really takes to be a great butler.
That's dignity. It's what it takes.
Thank you, Mr. Stevens. Dignity, that's right.
Je me demande si vous savez vraiment ce qu'il faut pour être un grand majordome.
Il faut de la dignité. Voilà ce qu'il faut.
Merci, Monsieur Stevens. De la dignité, parfaitement. De la dignité. En voici la définition officielle donnée par notre revue The Gentleman's Gentleman. Un grand majordome doit posséder une dignité.
C'est pour vous, Monsieur Stevens.
Merci.
Pas facile de trouver un majordome qui accepte de témoigner. Dans ce métier, la discrétion est érigée en principe absolu. Surtout quand on a servi dans des maisons fréquemment à la une des gazettes mondaines, comme c'est le cas de Giuseppe Santo. Giuseppe, vous êtes très raffiné. Vous appréciez le raffinement par-dessus tout.
Ah, j'apprécie beaucoup, oui.
Vous avez reçu une éducation raffinée ?
Non. Non, justement, parce que c'est ça le comble. Moi, j'ai appris mon travail... Je l'ai appris sur le tas. Donc moi, j'ai eu la chance de vivre dans ce cadre et je me suis raffiné un peu au fil des années. Au fur et à mesure que je rencontrais des gens, je me disais, c'est ma voie.
Vous avez tout appris chez Agnelli.
J'ai appris tout chez Agnelli. Ça a été mon école, parce que j'ai eu la chance d'avoir justement M. Pasquale, qui était un excellent maître d'hôtel majordome. En fait, c'était le majordome.
Et... Quelle est la différence entre majordome et maître d'hôtel?
Ben, le majordome, c'est lui qui voit tout, qui doit voir tout et doit faire face à tout. C'est lui qui règle un peu tout ce qui se passe avec tous les autres personnels. Si vous voulez, c'est un...
Il y a une hiérarchie très importante.
C'est une hiérarchie. Moi, je voyais très bien qu'avec M. Pasquale, par exemple, quand il avait vu que je valais plus que les autres, n'est-ce pas, il n'a pas hésité à me dire « Giuseppe, toi, tu viens avec moi ». Et moi, je n'avais pas l'indélicatesse de dire non, parce que même si j'étais passé devant tous les autres, c'était le chef qui me l'avait demandé, n'est-ce pas. Et quand il me disait « On va faire un martini », ben, j'apprenais comment on faisait un martini.
Ça, c'est martini. Difficile à faire.
Mais je vais vous dire qu'on me classe. Il y a des dames et des messieurs qui me classent. Par exemple, le Bloody Mary, le Martini, ce sont deux cocktails que je réussis. Des Américains ne l'ont jamais bu aussi bien, aussi bon que le mien. En fait, le monde entier dit que jamais ils ont bu un Martini ou un Bloody Mary comme moi je le fais.
Comment vous faites? Quel est votre secret?
Ah ben, le secret, déjà, il faut prendre, pour faire un Martini, il y a deux Martini. Il y a Gin Martini et Vodka Martini. Par exemple, vous faites un Martini Vodka. Bon, moi je prends toujours le Noyer Prat. Vous savez, c'est un petit vermouth. Or, je prends mon shaker.
Quel lapsus!
Je prends mon shaker, je mets la glace dedans, je mets deux zestes de citron dedans et je prends toujours une mesure. On ne prend pas la bouteille, on ne verse pas avec la bouteille dedans. Vous prenez une mesure, si je fais deux martinis, je prends trois verres de vodka, toc, je les mets dedans. Et je prends juste la moitié, enfin un peu moins que la moitié de Noyer Prat que je verse dedans. Il faut mettre juste le parfum de vermouth, et non pas noyer la vodka avec le vermouth. Et c'est tout est là, le truc. Après, vous le shakez, n'est-ce pas, vous le...
Secouez.
Vous le strapatez, vous le secouez, comme vous dites. Et donc, vous servez ça dans un verre que vous avez au préalable mis au congélateur, qui est froid, n'est-ce pas. Et vous servez ça tout de suite. Et vous le servez avec des carottes coupées en tranches. Vous voyez, là, que vous avez au préalable mélangé avec un peu de citron. Et vous servez ça comme ça. Eh bien, je vous jure, c'est un succès fou avec ça. L'important aussi, c'est que vous me demandez à Martine, je sais comment vous l'aimez. Madame aime le Bloody Mary. Je sais comment elle l'aime. Monsieur me demande un vermouth ou un essai ou un whisky. Je sais comment il l'aime. Et je lui sers comment il l'aime. En fait, un majordome, il faut qu'il connaisse tout. Ce que j'ai voulu toujours appliquer, c'est le fait de bien faire les choses à chacun des personnalités que j'ai eu à connaître. Comment ça, c'est très important. C'est la qualité d'un bon maître d'hôtel d'avoir la possibilité de recevoir les gens avec le sourire, de les accueillir avec grâce, n'est-ce pas, de les accompagner dans un salon, de les faire attendre. S'il faut qu'ils attendent, vous lui apportez des journaux, vous lui proposez de voir quelque chose. Enfin, c'est toute une stratégie que moi, j'ai mis dans mon métier. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé à faire ce travail-là, je me suis dit... c'est un choix que je fais. Comme je venais déjà, mon père et ma mère, c'était des agriculteurs. Donc, comme tu n'as pas voulu travailler à la terre plus longtemps, tu es venu faire ce travail-là, il faut quand même que tu t'exportes bien. En fait, c'est ça le système. Parce que si vous voulez, j'étais venu du sud de l'Italie pour être au nord de l'Italie. Et du nord de l'Italie, je suis venu à Paris. Et puis, Paris, si vous voulez, ça m'a apporté tout ce que j'ai voulu.
Comment vous êtes retrouvé chez Agnelli?
Mais tout simplement. Parce que mon oncle à Turin connaissait un concierge, le gardien qui était chez Agnelli, et qu'à l'époque, il m'a dit, si tu viens à Turin, je peux te trouver une place. que tu vis chez des gens, tu travailles chez des gens, et eux, ils te donnent une chambre, ils te donnent tout, ils te nourrissent, ils te blanchissent, ils te... En fait, l'esprit, c'était ça, c'était de partir du pays et venir là et s'engager avec ça. Eh bien, on a fait un essai, et puis je suis resté quand même 3 ans chez Agnelli, et puis après, je suis parti ailleurs.
Vous avez été embauché comme quoi, chez Agnelli ?
Eh bien, là, j'étais comme garçon, troisième garçon même, parce qu'ils étaient 6, il y avait le majordome, il y avait un deuxième, il y avait un troisième, puis un quatrième, moi, j'arrivais en 5e position. Et à l'époque, monsieur le majordome Pasquale, il voulait un garçon pour le mettre comme valet de chambre de monsieur Agnelli. Et en fait, je suis rentré dans cette maison, je me rappelle toujours, il fallait que je m'occupe en fait de monsieur, de toutes ses affaires, costumes, chaussures, chemises, enfin, toutes les affaires, slip, t-shirt, manteau, enfin... De m'occuper de toutes ces affaires-là, quand ils étaient à repasser, il fallait que je repasse. Quand il y avait des chaussures à nettoyer, je les nettoyais. Et quand il fallait laver les chemises, je les donnais à la femme de chambre pour qu'elle les lave, les repasse et puis me les donne, que je les mette en place. En fait, il n'y avait que moi qui avais le droit d'aller
dans la chambre.
M'occuper des affaires de monsieur.
Quelle relation est-ce que vous avez eue avec Agnelli ? Parce que c'était un peu un monstre sacré, lui.
Écoutez, M. Agnelli, si vous voulez, c'est un homme extraordinaire.
Giovanni
Agnelli.
Il aimait les bateaux, les femmes.
Il a toujours aimé les femmes, Dieu merci. Il aime les bateaux il aime la vie, il aime les voyages, il aime tout. Et puis c'est un homme comme tous les autres. Il a... sa grandeur, et puis il y a aussi le côté humain qui fait que tout à chacun, on peut avoir ses forces, ses faiblesses. C'est tout, je veux dire, je peux pas... À partir du moment que j'avais à préparer son costume, ses chemises, ses chaussures, enfin, ses valises, tout ça, c'était toujours un grand merci... à chaque fois, s'il vous plaît, une délicatesse extraordinaire. Je veux dire, on n'a pas à discuter d'affaires avec les gens. On n'a pas à discuter des choses que vous ne connaissez pas. Moi, par exemple, je ne me suis jamais permis de parler avec ni avec les Rothschild, ni avec le prince Karim Aga Khan, ni avec M. Agnelli, ni avec les autres personnalités, Mme Ariman, etc., de choses qui ne me regardaient pas. Moi, je n'ai parlé avec eux que ce qui était important pour moi, pour ce que je devais faire dans une maison. Vous savez, moi, ce qui m'est amené à faire ce travail-là, c'est que justement, ce que je n'avais pas pu trouver quand j'étais plus jeune à la campagne, j'ai pu le trouver dans ces maisons-là comme ça. Imaginez un peu de vivre dans des palais, dans des meubles, dans des tapisseries, dans des tableaux, dans des espaces extraordinaires. Et alors, je me suis dit, mais c'est du rêve, ça. Surtout, je me disais ça quand j'ai commencé à travailler. Je n'avais jamais vu ça. Je n'avais vu ça qu'au cinéma. Et quand la première fois que je suis arrivé chez Agnelli, que je voyais tout ce palais-là, je m'appelle Corso Mattiotto 26, là. Oh, mais c'est une maison fabuleuse. C'était une maison de 1890, je crois. Mais avec des colonnes, avec des escaliers en marbre, des tapisseries, des tableaux, mais puis des salles à manger, des tables anciennes, enfin des buffets, des porcelaines, des verreries, puis des caves avec des vins extraordinaires, des champagnes. Mais enfin, c'est là ce que je me suis dit, mon cher Giuseppe, voilà, tu as trouvé ta voie, c'est ça.
d'un soleil ardent, nous trouvons en ce moment devant l'hôtel de ville de Valoris. Une foule compacte et nombreuse se presse tout autour de l'hôtel de ville, ainsi que de monuments aux morts et à proximité de l'église. Voici les motards qui précèdent le cortège. Et en tête de ce cortège, une voiture du protocole et le prince Ali Khan dans son Alfa Romeo, ovationné par la foule. C'est l'Aga Khan qui le précède. La voiture stoppe devant l'escalier d'honneur du petit hôtel de ville de Valoris. Il est vêtu de flanelle blanche, une rose rouge à la boutonnière, et vous entendez la foule. On est tout à fait dans une ambiance Tour de France. Et voici Madame Rita Hayworth, vêtue et chapeautée de bleu des neiges, ou bleu des glaciers. Elle est adorablement belle, et vous entendez les exclamations d'admiration qui fusent de toute part.
Elle était tellement... On la voyait, elle est... C'est aussi lié à l'époque, c'est-à-dire dans les années 50-60, qu'on était sur la Riviera, qu'on allait dans des galas Monte-Carlo, qu'on tournait entre les Windsor qui vous recevaient, etc. Il y avait un côté tellement show-off, où tout le monde s'habillait, où chaque femme était couverte de bijoux, etc. Ça créait du mythe, enfin ça créait de l'image comme ça. Maintenant, c'est beaucoup plus discret.
À la demande de cette foule qui proteste, est revenue sur le seuil de l'hôtel de ville et elle salue maintenant ces milliers et milliers d'admirateurs et de curieux qui sont là, qui forcent les barrages de police qui l'ont veuve, mais...
Il y avait tout. Il y avait l'argent, puisque les Ismaéliens, c'est une communauté religieuse très importante, mais qui disséminait dans le monde. Ils avaient une tradition, c'était de verser une sorte d'impôt tous les ans à leur imam. À l'époque du grand-père de l'Aga Khan III, c'était la fameuse cérémonie de la pesée, où donc son poids, alors il pesait 109 kilos, alors évidemment ça faisait rire tout le monde. Alors il avait en fonction des anniversaires, c'était du diamant, c'était des pierres précieuses, des choses comme ça. Bon, donc ça faisait complètement rêver, parce que s'il y avait un parfum mille et une nuits, la pesée en 109 kilos de diamant.
La cérémonie est terminée et maintenant les époux sortent suivis de leurs invités. C'est une véritable bagarre devant l'hôtel de ville. Les caméramans, les photographes mitraillent de toutes parts. Je vais essayer tout de même d'arriver auprès de l'un des deux conjoints. Rita est déjà séparée de nous par des caméramans.
Et donc le petit-fils, Aga Khan, 4, hérite de tout ça. Il y avait eu le père aussi qui avait quand même alimenté la légende, puisque Ali Khan, bon, le playboy, le grand-père... le déshérite, entre guillemets, préfère le petit-fils. Ali Khan se marie avec Rita Hayworth à Valoris dans les années 50. Tout ça donne... C'était très cinémascope, comme ça.
Et 3 heures plus tard, nous voici au château de l'Horizon, ou au bord de l'eau bleue de la Méditerranée. 300 convives se partagent l'énorme gâteau de 60 kilos. Et c'est Yves Montand que vous entendez, Yves Montand qui met un point final, si j'ose dire, à ce mariage de Rita et d'Ali. Ici, le château de l'Horizon, Radiodiffusion française.
Alors, on ne saura rien sur l'Aga Khan, on ne saura rien sur les Rothschild.
Non, tout ça, c'est... Je vous ai parlé bien de mon travail, mais je ne peux pas parler des gens, non. Non, je ne peux pas parler. Je vous ai parlé bien parce que c'est des personnalités extraordinaires. Ça, quand vous pensez que le prince Karim Aga Khan, c'est le dieu vivant de 25 millions de sujets, et qu'il s'occupe, en fait, là où ils sont, de faire les écoles, de faire des maisons, de faire des autoroutes, de faire des hôpitaux. Ben, félicitations, monsieur le prince. Hein. Ça, c'est...
Ça, oui, mais c'est quand même plus facile d'être généreux quand on a beaucoup d'argent.
Attention. Ah, ah. Alors là, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont riches et qui sont... des radins. Ah, si.
Vous n'avez servi que des riches généreux.
Moi, Dieu merci, j'ai eu la chance de choisir des riches généreux et sympathiques.
Et simples.
Et simples. Parce que, je vous dis...
Malgré leur rang de prince...
Malgré son rang de prince, je veux dire que je ne me suis jamais senti, si vous voulez... Écoutez, moi, j'estime qu'il faut être honnête, discret. Il faut voir et pas voir. Il y a des tas de choses qu'on peut voir. C'est trop facile. Il y a des gens, des fois, qui me disent « Pourquoi vous n'écrivez un livre ? Vous avez des tas de choses à raconter. » Moi, je dis, d'accord, j'aurais peut-être des choses à raconter, mais je vais raconter ce que je peux raconter. Parce que c'est trop facile que les gens m'invitent chez eux, ils me payent pour ça, je fais une belle vie, et puis tout d'un coup, ils me tournent le dos, et puis je vais dire, tiens, j'ai vu ça. Il y a des gens qui l'ont fait, ça. Mais moi, Giuseppe Santo, jamais fera ça. La moindre des choses, c'est d'avoir cette discrétion. Et puis, en fait, vous êtes là pour faire votre travail. Et Dieu merci... Je touche du bois. Jamais personne a pu me dire le contraire que merci Giuseppe, c'était parfait.
Vous ne vous êtes jamais senti traité comme un domestique?
Alors là, jamais. Jamais parce que, permettez-moi, chaque fois, on me disait, mon cher Giuseppe, merci beaucoup.
Et on vous tapait comme ça sur l'épaule?
Eh bien, je dois le dire, et ça, je le dis avec fierté, c'est que Madame Harriman, tous les jours, elle me disait, Giuseppe, enfin, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait sans vous. Franchement, vous m'avez aidé beaucoup. Et ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est quand même un encouragement, c'est un couronnement pour moi.
Désiré, vous pouvez servir.
Bon.
Désiré, vous pouvez servir.
Bien entendu.
Je vous remercie.
Il n'y a pas de quoi.
Enfin, mon principe à moi, c'était de traiter tout le monde comme soi-même.
Madame est servie.
Monsieur C, comment qualifieriez-vous votre milieu d'origine ?
Grand bourgeois.
Désir garder l'anonymat.
Avez-vous beaucoup d'argent?
Du côté de ma mère, oui, beaucoup. Oui. Quand on arrivait chez notre grand-mère, on allait, première chose qu'on allait faire, on allait embrasser le maître d'hôtel, valet de pied, la cuisinière. Ça paraissait évident. Mais en même temps, quand ensuite... il allait annoncer qu'on était dans le boudoir de notre grand-mère et qu'il allait annoncer que le madame est servie, comme ça se fait toujours, et qu'on repartait par un ordre protocolaire dans la galerie d'entrée pour aller vers la salle à manger avec le personnel qui était là pour précéder, disons, la famille qui allait dans la salle à manger. On appréciait cérémonial et à ce moment-là, là, chacun était dans son rôle, disons.
Donc, et combien de domestiques ?
Il y avait à Paris, il y avait 4 domestiques, plus le chauffeur. Donc le maître d'hôtel, valet de pied, cuisinière, lingère, le chauffeur. Et il y avait également assez souvent, plusieurs jours par semaine, une couturière qui venait, non pas pour les robes de ma grand-mère qui n'étaient bien entendu que de... grand couturier, mais pour les travaux qu'il y a toujours dans une maison. Mais elle faisait partie du personnel de Paris. Et à la campagne, il y avait une salle à manger du personnel. Puisqu'ils étaient suffisamment nombreux, il y avait toujours 10 à 12 personnes.
Il y en a eu jusqu'à combien?
Moi, j'ai connu une quinzaine pendant l'entre-deux-guerres. Il y avait en fait... pour ma grand-mère, son mari et leurs deux filles, 72 personnes en tout, avec 43 jardiniers, les gardes-chasse, les écuries, etc. Donc c'était vraiment une belle propriété, bien tenue. Tout à côté de Paris, en forêt de Rambouillet.
Le maître d'hôtel dont vous parliez, vous connaissiez vraiment très bien?
Alfred, lui, avait commencé comme valet de pied,
Qu'est-ce que ça veut dire, valet de pied ?
Valet de pied, c'est celui qui, eh bien, va s'occuper dans la maison du ménage, l'argenterie. L'argenterie, c'est un vrai art, savoir faire l'argenterie. C'est pas prendre, je vais pas citer une marque, mais c'est pas prendre un produit. C'est tout un travail, je crois même. On peut aller jusqu'à l'agate pour refermer certaines petites rayures qu'il peut y avoir. Donc, il y a un entretien extraordinaire. Donc, le ménage, le service de table, contribuer au service de table sous la responsabilité du maître d'hôtel. Le maître d'hôtel était vraiment le formateur des valets de pied et du personnel. De ce fait, je n'ai jamais vu ma grand-mère devoir faire une remarque à quiconque, donner un conseil, se plaindre de quoi que ce soit, jamais, parce que c'était le travail du maître d'hôtel que de former ceux qui l'entouraient, ceux qui servaient. Il a commencé comme valet de pied, ensuite il est devenu valet de chambre de mon grand-père. Donc le valet de chambre, comme son nom l'indique, c'est celui qui s'occupe des vêtements, du linge. Le linge, c'était un peu dingue dans l'entre-deux-guerres, le linge, les chemises partaient toutes les semaines à Londres pour être lavées, parce qu'apparemment l'eau était meilleure à Londres. Et je n'ai jamais vu un personnel licencié, congédié, comme on dit, chez nous. Toujours, ils sont partis au bout de 40 ans, 41 ans pour certains, prendre leur retraite. Alfred, maître d'hôtel, est parti à la retraite. C'est Marcel, le valet de pied, qui ensuite est devenu maître d'hôtel. Et lui, il est parti quelques années après la mort de ma grand-mère. Ma grand-mère étant morte, ma mère et sa sœur ne lui ont pas demandé de partir. Donc,
c'est le... dit-il ?
Eh bien, il a continué à entretenir l'appartement.
Vide ?
Vide. Et puis, de moins en moins. Et puis, un jour, il a dit, j'ai envie de prendre ma retraite. Alors, on a dit, on peut vendre.
Le rapport de classe, la différence de classe, vous l'avez ressenti ?
Jamais ressenti.
Vous l'avez ressenti ?
Non, jamais. Vraiment. Je vous dis, pour nous, c'était nos grands-parents. On allait, la première chose en arrivant, la porte ouverte chez ma grand-mère, c'était de se précipiter à la cuisine et à l'office pour embrasser. Alfred, Madeleine, Marcel, tout le monde y passait.
Elle s'appelait Augustine Barrault. On l'appelait Titine.
Vous la connaissez depuis...
Depuis toujours. Elle a été une mère pour moi. La voilà un peu âgée. Elle aimait beaucoup la vie. Elle trouvait que c'était la plus belle chose au monde. Et elle espérait vivre le plus longtemps possible. Elle disait, il faut que je souffre beaucoup pour avoir envie de mourir, parce que vraiment, j'aime la vie.
Madame de Cador, c'était votre domestique ?
Oui, enfin, elle avait été embauchée pour ça, mais pratiquement, c'était une mère pour moi. Et moi pour elle aussi, à la fin. Nous avons beaucoup profité de l'autre. Elle m'apportait beaucoup.
Qu'est-ce qu'elle vous apportait ?
La joie de vivre, le réconfort. Elle s'intéressait à tout ce que je faisais. Je racontais ma journée de travail, ça la passionnait. Elle regardait la télévision aussi, elle aimait beaucoup la télévision. Le dimanche, elle écoutait le jour du Seigneur, la messe. Et elle était passionnée par tout ce qu'elle entendait, tout ce qu'elle voyait. Elle trouvait le progrès une chose merveilleuse, parce qu'elle avait eu une vie assez dure. Dans les campagnes, c'était très dur.
Elle avait été à l'école ?
Elle avait été à l'école. Elle aimait beaucoup l'étude. Alors, elle voulait être infirmière. Et elle aimait lire. Elle aimait beaucoup lire. Elle ne s'ennuyait jamais. Au fond, elle aurait été plus intellectuelle même que Manuel. C'était sa vie qui l'avait orientée comme ça.
Madame de Cador, vous êtes duchesse ?
Non, je ne porte pas le titre.
Que votre mari est duc, non ?
Mais nous ne portons pas tellement le... Trouvons que c'est une chose désuète.
Mais vous pourriez.
Je pourrais
vous dire, Madame la Duchesse de Cador.
Non.
Augustine ne vous a jamais appelée comme ça?
Non. Elle m'appelait Françoise. Elle a toujours appelé Françoise et moi je l'appelais Titine.
Elle est restée combien de temps au bout du compte dans votre famille?
Elle est restée de 1929 à 1990.
Elle est décédée en 90?
Elle est décédée en 90, ici.
Vous avez fini par vous occuper d'elle?
Oui, complètement. Complètement, elle était là, dans la pièce à côté. Je m'occupais d'elle nuit et jour. Pour moi, ça n'était pas une charge du tout. C'était, au contraire, ça me faisait plaisir de la soigner. Je trouvais que c'était juste un juste retour des choses. Quand elle nous a quittés, ça a fait un vide.
Elle vous manque?
Énormément, elle me manque toujours. Je pense souvent à elle.
Elle est morte très âgée?
Elle est morte à 103 ans.
History could well be made under this roof over the next few days. You can, each and every one of you, take great pride in the role you will play on this momentous occasion.
L'histoire se fera peut-être sous ce toit au cours des jours qui viennent. Vous tous, sans exception, vous pouvez tirer grande fierté du rôle que vous allez jouer dans cet événement décisif. Chacun a sa tâche particulière, chacune sa tâche particulière, selon le cas bien sûr. Cuivre, briques, argenterie étincelante, acajou, lustrés comme des miroirs. Telle est la bienvenue que nous offrirons à nos visiteurs pour leur montrer qu'ils sont en Angleterre. Or, les traditions prévalent encore.
Bien observé. Ah, ne jamais toucher le col du verre.
Giuseppe, ça vous est arrivé parfois de casser un verre en cristal?
Si, ça
m'est
déjà arrivé.
Une assiette en porcelaine?
C'est déjà arrivé. Moi, ça m'est jamais arrivé à moi, mais les autres, oui. Mais il faut vous dire ceci. C'est que celui qui casse, c'est celui qui travaille avec. Moi, si vous voulez, j'ai eu des vitrines dont les choses étaient trop exceptionnelles. Alors là, j'ai fermé les portes des salons, j'ai coupé le téléphone, j'ai dit à une personne ou deux que j'étais là, et c'est moi qui m'ai occupé des vitrines. Parce que ce sont des choses qui sont tellement délicates et puis ce sont des sujets uniques.
Des œuvres d'art.
Une fois que vous les cassez, c'est fini. C'est... Alors, souvent, deux fois par an, dans chez les Rothschild, par exemple, qui avaient des porcelaines extraordinaires, eh bien, je me mettais là et je ne faisais que ça. Je prenais une période où les patrons n'étaient pas là, etc. Pour faire ça, et je le faisais moi tout seul. Je n'ai jamais commandé à qui que ce soit de faire un travail aussi délicat pour avec des pièces aussi importantes.
Vous n'avez jamais rien cassé?
Non, Dieu merci, je n'ai rien cassé.
Qu'est-ce que vous ressentiez lorsque vous aviez ces objets dans les mains?
Mais écoutez, quand vous voyez des pièces qui sont uniques au monde, c'est une vie. Vous avez des générations dans vos mains comme ça. Moi, j'ai toujours trouvé du plaisir. Ça, c'est...
Vous n'avez jamais eu de tentation?
Ah non, jamais alors. Non. Ah non, franchement, jamais. Jamais.
Quelquefois, on peut tomber fou amoureux d'un objet et se dire...
Non, mais ça serait gravissime. Vous avez des liasses d'argent. Des liasses d'argent qui sont là.
Sur la table?
Oui. Mais il ne faut pas toucher à ça. Comme il disait mon ancien patron...
Lequel?
Il me disait que j'étais le maître d'hôtel le plus cher de Paris. Ben, il pouvait le dire, oui, j'étais le plus cher de Paris. À ces conditions-là, seulement à cette condition-là, il fallait se dire que vous êtes bien payé et vous n'avez pas besoin de prendre ça.
L'art du métier, Giuseppe Santo. L'honnêteté?
Alors, l'art du métier. Moi, je dois dire qu'il faut être déjà... satisfait de tout. Je veux dire dans le sens qu'il ne faut pas être envieux, il ne faut pas être jaloux, il faut de la discrétion à 100%, il faut faire toujours très attention, il faut être vigilant. Pour moi, c'est ça l'art du métier. Je vais recevoir M. Bill Clinton, il faut que je sois... au summum de ma forme. Être propre, c'est très important. Pas mettre trop de parfum, parce que ça peut déranger les gens. Non, je veux dire, ce sont des détails comme ça. Mais vous savez, c'est une drogue. Je fignole les choses, n'est-ce pas? Sur un buffet, par exemple, un buffet de 20 mètres, par exemple, je vais mettre 7 mètres d'hôtel dessus, et chaque mètre d'hôtel, devant lui, il y aura une partie de 10-15 bouteilles. Par exemple, ça peut être différentes qualités de whisky, des vermouths, par exemple, des vins blancs, des vins rouges, et puis des champagnes. Le champagne, par exemple, j'ai jamais voulu qu'on mélange un champagne. Je veux dire, les champagnes. Les champagnes, c'est quelque chose, des gens, comme quand j'étais chez Rothschild, par exemple, quand ils venaient chez Rothschild, les gens, ils venaient pour boire le Bordeaux, autant que possible, le château Lafite Rothschild. Mais avant d'avoir à servir tout ça, c'est qu'il faut mettre déjà les buffets, il faut les napper, il faut mettre des fleurs, ça, c'est quelque chose dont j'ai excellé en particulier parce que j'adore les fleurs, j'adore faire des bouquets, j'adore faire... Mais un bon bouquet, finalement, c'est pas parce qu'il est cher que c'est un bon bouquet. Un bon bouquet, pour moi, c'est mettre deux branches de verdure et puis quelques fleurs un peu mélangées comme ça, et ça vous fait un bouquet. Moi, par principe, j'ai adopté la marguerite qu'on appelle la chrysanthème, là, maintenant. Et maintenant, vous avez de toutes sortes. En fait, je me déparpillais pas. Enfin, je m'égarais pas à chercher d'autres couleurs. Moi, je me basais surtout sur le blanc, parce qu'en fait, parlant de la résidence, il y avait donc Madame Harriman, qu'elle adorait, en fait, des bouquets qui étaient un peu ce genre-là, comme je les faisais. Et c'était joli, parce qu'en fin de compte, ce qui arrivait avec Madame Harriman... c'est que, si vous voulez, on va faire un pas en arrière, parce que Mme Harriman, je vous la présente comme ça, mais Mme Harriman, c'est une dame que j'ai connue à l'époque, j'avais 20 ans. C'était en 1950-52. Je suis né en 1930. Je l'ai rencontrée en étant en place chez M. Agnelli. J'ai rencontré Mme Harriman à la Léopolda, la villa La Léopolda, à Beaulieu. Et là, bien entendu, quand elle est venue à Paris, que moi j'étais à Turin, comme à 20 ans, on a toujours envie de partir quelque part, je me suis dit, tac, j'ai écrit à Madame Harriman, à l'époque c'était Madame Churchill.
Elle avait épousé Churchill.
Oui, le fils, Winston, oui. Et j'ai dit en fait que j'avais envie de venir à Paris, et puis il m'a dit, mais venez, il m'a invité à moi à venir à Paris, il m'a donné une chambre de bonne, c'était au quai de New York, là. Et puis, au fur et à mesure, bon, il m'avait invité à venir en vacances comme ça. Et puis, de fil en aiguille, elle a eu besoin d'un maître d'hôtel un soir parce qu'il y avait un dîner. Donc, j'ai servi un dîner. Jusqu'à la fin du mois, j'ai servi deux, trois dîners comme ça. Et puis, à la fin du mois, il me dit, mais pourquoi vous partez en Italie? Pourquoi vous ne voulez pas rester ici? Et entre-temps, je rencontre ma femme. Cela a fait que je reste à Paris. Et là, ça va faire 40 ans que je suis à Paris.
Pamela Harriman. Pamela Harriman, elle est, on l'a découverte un petit peu lorsqu'elle est devenue donc ambassadeur hein, des États-Unis à Paris. Mais en fait, pour le tout Paris, il la connaissait déjà depuis, depuis de longues dates, puisqu'elle était, elle a été mariée au fils Churchill. Bon, et alors ça s'est plutôt mal passé. Donc après-guerre, elle a divorcé, elle est venue à Paris. Et là, à Paris, elle était jeune, elle était marrante, elle était pleine d'esprit. Et donc du coup, évidemment, tout le monde l'a trouvée très sympathique et l'a adoptée. Et elle avait quelques amants célèbres, qui l'invitaient sur la Côte d'Azur, qui l'invitaient un peu partout. Donc elle a eu un parcours comme ça, parisien, très... très brillant. Et puis bon, après, elle est partie, elle a refait sa vie aux États-Unis. Et à ce moment-là, effectivement, elle a un petit peu disparu. Et son retour à Paris, c'était ses premières amours. Donc d'un seul coup, tous ses vieux amis des années 50 l'ont adoptée tout de suite. Et c'était à nouveau des fêtes incroyables. Et d'ailleurs, à l'ambassade des États-Unis, elle a donné d'un seul coup un lustre qui avait été totalement oublié pendant des dizaines d'années. Alors là, on ne sait pas comment le nouveau va prendre la relève. Mais c'est sûr qu'il n'aura pas le même... Il est beaucoup moins glamour que Pamela Harriman.
C'était quel genre de femme?
Ah, dure. Très dure. Très dure. Hein. Elle était pas facile, mais en même temps... C'est toujours pareil. La duchesse de Windsor était épouvantable, il paraît. Vous savez, elle notait sur un cahier, elle avait des dîners très... C'était des maîtresses femmes. Donc elle savait tenir une maison, ça a tout son sens. Elle tenait. C'est-à-dire qu'il y avait un majordome, il y avait un maître d'hôtel, on faisait les menus le matin. Il y avait des livres sur lesquels étaient recensés tous les menus pour ne pas resservir la même chose aux mêmes gens. On savait généralement ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Quand ils arrivaient, on savait quel cocktail leur servir. Et tout ça était noté quand même. D'ailleurs, on a retrouvé les livres de la duchesse de Windsor où il y avait les recettes, où il y avait les préférences de chacun. Les plantables, bien sûr. Et alors il paraît que même, moi je n'étais pas parce qu'il y avait un petit écart d'âge, mais il paraît même que lorsqu'elle donc donnait ses dîners dans sa maison du Bois de Boulogne, elle avait toujours à côté de son assiette un petit bloc-notes. Elle notait toutes les petites choses qui n'allaient pas. Et le soir, c'était, elle tombait sur le chef ou elle tombait sur le soufflé, n'était pas suffisamment. Tac. Vous avez servi madame comme ça. Il y avait une goutte qui est tombée. Enfin, tout était noté. Enfin, c'était donc être à leur service, ça devait être du boulot quand même. Voilà, Pamela. Mais en même temps, elle avait une vraie gentillesse. Donc et puis c'était des femmes, pareil, on pardonne beaucoup aux femmes exceptionnelles.
Comme je n'ai pas voulu aller avec elle aux États-Unis, elle m'avait recommandé différentes personnes. Déjà, si vous voulez, il y avait la duchesse de Windsor, qui vous me voulez, il y avait des Américains qui voulaient s'installer à Paris, voulaient m'avoir chez eux. J'ai eu la baronne Alix Rothschild qui elle m'a contacté aussi pour finalement j'ai choisi madame la baronne Alix Rothschild pour travailler chez elle. Et je me rappelle toujours, elle m'avait reçu chez sa sœur place Vendôme, et laquelle me dit à un moment donné: combien voulez-vous gagner? Mais j'ai dit: écoutez, moi je ne vous demande rien pour l'instant. Je vous demande seulement 2 mois d'essai. Si ça vous plaît à vous et si ça me plaît à moi, on déterminera à la fin de ça combien vous allez me donner, combien je... Et en fait, on est resté comme ça. Et puis, le premier mois, déjà, j'ai pris service, je me rappelle, au mois de septembre. Et on a eu, à l'époque, une réception. On a reçu 2000 personnes. On a fait des tentes dans les jardins, là. C'était à Avenue Foch. Et le lendemain matin, la baronne m'appelle et m'a dit: bon, ben, à partir de maintenant, si vous êtes content, je vous donne 600 francs à l'époque. 600 francs, c'était de l'argent. Je vous donne 600 francs par mois. Et c'était en 1959. En fait, j'étais le maître d'hôtel, j'avais 2 garçons avec moi. Il y avait une cuisinière, donc il y avait 2 personnes aussi à la cuisine. Il y avait chauffeur, il y avait 3 femmes de chambre, une lingère, etc. Ce sont des maisons, si vous voulez, à l'époque, ça marchait grand train comme ça. Et puis tout le monde était heureux de travailler chez les Rothschild. Ça, c'est... Si vous voulez, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu une très grande chance d'avoir pu travailler avec des dames... Enfin, très grande femme d'intérieur, de maîtresse maison.
bien un plaisir à être servi.
Ah oui, j'ai toujours adoré ça. Ça, je dois dire, j'adorais le style qu'il y avait, j'adorais le décorum, j'adorais à un point que nous allions déjeuner tous les jeudis chez ma grand-mère. Tous les petits-enfants étaient invités à déjeuner, donc on se retrouvait environ une quinzaine à déjeuner avec ma grand-mère. Donc de tous les âges, hein. Moi j'étais le plus jeune, mon frère est né à 12 ans de plus que moi, donc moi j'avais peut-être à l'époque 6 ans, et donc vous voyez, lui en avait 18. Ma grand-mère présidait avec mon frère aîné, le maître d'hôtel derrière ma grand-mère, le valet de pied derrière mon frère, lorsque le service était terminé pour vérifier qu'ensuite personne n'avait besoin de quoi que ce soit. Et j'aimais tellement ça.
À 6 ans.
À 6 ans. Qu'il arrivait que, rien que pour voir ma tête, au lieu de se mettre derrière ma grand-mère, le maître d'hôtel se mettait derrière moi. Moi qui étais, bien que le plus jeune, j'avais dérogation, j'étais à gauche de ma grand-mère. Ça avait peut-être commencé au début parce qu'il fallait m'aider, m'apprendre à me servir, mais ensuite, la tradition était restée, j'étais toujours à gauche de ma grand-mère.
Parce que normalement, vous deviez...
Mais j'aurais dû être au bout de la table, étant le plus jeune, par ordre de préséance. Bon. Et donc... J'aimais tellement ça, il le sentait, que de temps en temps, rien que pour me voir bomber le torse, il se mettait derrière moi, derrière ma chaise, au lieu d'être derrière la chaise de ma grand-mère. Et alors là, je prenais ça au premier degré, et vraiment, j'étais ravi. C'était tellement agréable, parce que c'est un art de vie absolument merveilleux. Tout est en douceur, tout est facile, tout est beau, tout est simple, tout est bon, parce que n'oublions pas aussi qu'on était très gourmands, et que la cuisine était fort bonne, les vins merveilleux. Est-ce qu'on sait ce que c'est que d'avoir une serviette de table qui est d'une douceur, qui est d'une beauté de par les broderies, la finesse du linge, qui a été teintée comme plus personne aujourd'hui. Il y a encore quelques bonnes maisons à Paris qui repassent encore avec des fers chauffés au charbon, comme ça se faisait, puisque c'est bon. Mais plus personne aujourd'hui vous dit, si vous leur dites, mais est-ce que vous pouvez me les teinter pour être légèrement écru, couleur thé, très très clair. Les gens vous disent, oh non, non, on ne sait plus faire. Bon. Mais ça, vous savez, vous n'avez pas besoin d'être très vieux pour vous rendre compte que c'est beau et exceptionnel. Parce que même quand j'avais 6 ans, ce n'était pas très fréquent.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre donc, comme détail? Il y a la beauté des gestes, même du service.
Il y a la beauté des gestes. Effectivement, servir, présenter un plat...
gant blanc?
C'était toujours, les photos de mon enfance étaient toujours en gants blancs, et puis ça a été la seule concession de l'après-guerre, lorsque le maître d'hôtel est rentré de captivité. Peut-être, là, il a un tout petit peu senti, peut-être une certaine gêne de servir. Il a continué à le faire parfaitement, mais il a souhaité de ne plus jamais servir en gants blancs. Alors qu'il était toujours en tenue impeccable, pas du tout d'ailleurs veste blanche, qui est une... Si vos auditeurs vont me trouver complètement scandaleux, mais c'est complètement parvenu. La tenue d'un maître d'hôtel, c'est veste noire, pantalon rayé, gris et noir, et cravate noire, mais ça n'a jamais... Et col glacé blanc, ça n'a jamais été une veste blanche qui fait restaurant, mais qui ne fait pas personnel de maison. Mais la seule concession, c'était que je n'ai jamais vu effectivement le personnel en gants blancs à la maison, mais c'était depuis la guerre. Sinon, avant la guerre, c'était encore pire, c'était livrée complète, la vraie livrée, avec jaquette, des boutons, aux armes de la famille, etc. Mais en fait, ils étaient parfaits les uns comme les autres, hein, des deux côtés. Je crois vraiment qu'ils étaient des professionnels parfaits, et ma grand-mère, je pense, était aussi une personne qu'on devait pouvoir être fier de servir.
Giuseppe, tout à l'heure vous disiez qu'il fallait être discret. Il faut être discret, mais pas inexistant.
Ah non, alors non, discret. Quand je parle de discrétion, c'est que vous avez le moyen de voir trop de choses, de voir beaucoup de choses dans une maison. Ce qui fait madame, ce qui fait monsieur, ce qui font les gens. Donc, c'est pas pour ça qu'il faut sortir, dire j'ai vu ça. Déjà, moi, majordome, je n'en parle même pas, si j'ai vu quelque chose, je n'en parle même pas à mes proches assistants. Enfin, en tout cas, ce qui concerne le majordome que j'étais, que je suis encore, il faut que ça soit comme ça. Il ne faut pas de familiarité avec qui que ce soit, d'ailleurs. Ni avec vos patrons, ni avec vos assistants, ni avec vos cuisiniers, ni avec personne. Il faut que chacun soit à sa place.
Mais vous savez la réalité, quand vous êtes, à part le service de table, et le fait le maître d'hôtel qui vient annoncer « Madame est servie », vous n'avez pas l'occasion tellement de les voir. Et il vous ouvre la porte, oui, il vous ouvre la porte, souvent à deux personnes pour ouvrir, d'ailleurs. L'un qui vient ouvrir la porte et tenir la porte, et l'autre qui est perpendiculaire à la porte et qui vous accueille pour prendre le manteau. Mais sinon, vous ne les voyez pas. Ils sont à l'office et à la cuisine. Par définition, vous n'êtes jamais là quand le ménage est en train d'être fait.
Jean de Maison, aujourd'hui, l'art du métier de majordome selon Giuseppe Santo, avec Madame de Cador, Monsieur C, volontairement anonyme, Éric Janssen, journaliste à point de vue, extrait INA, 1949, Le mariage d'Alican avec Rita Hayworth, extrait de film Désiré de Sacha Guitry, Vestige d'un jour de James Ivory, prise de son Georges Arrigoni, Michel Bertin, mixage Monique Burguière, Christian Keller, réalisation Christine Robert, une émission de Marion Thibault.